Europe 1, il est 8h.
Surpris, en colère, oui, surtout.
La réforme des retraites se fera.
Ben non, on va tout faire pour qu'elle se fasse pas.
Le coup de gueule d'Yves Verrier de Force Ouvrière il y a un quart d'heure sur Europe 1 contre une réouverture du dossier retraite annoncé par Emmanuel Macron. Alors, pourquoi relancer la mère des réformes? Va-t-on cotiser plus longtemps? Les premières réponses du service économie dans une seconde. Un autre coup de théâtre politique, c'est à Marseille où il y a désormais deux candidats étiquetés Les Républicains pour la mairie. Lionel Royer-Perreaux se lance à son tour car il redoutait une alliance de son camp avec l'extrême droite.
J'ai la connaissance de contact. Ça n'est pas possible pour moi de faire ce type d'alliance.
Dans ce journal, le casse-tête des remboursements de billets d'avion annulés pendant le confinement, l'Europe attaque la France pour protéger les consommateurs. Quand un entrepreneur devenu milliardaire critique le gouvernement et applaudit les actions choc de l'association L214, tout ça en une phrase de Xavier Niel.
Moi je trouve que c'est de l'activisme qui a ses qualités pour démontrer un certain nombre de problèmes sur lesquels, notamment, le pouvoir politique n'ouvre pas les yeux.
Le patron de Free veut interdire les poules en cage d'ici 5 ans. Et puis Roland-Garros 2020, le chapeau de paille pour les spectateurs sera sans doute facultatif fin septembre, mais pas le masque pour se déplacer dans l'enceinte parisienne. Le directeur général de la Fédération de tennis en direct avec nous.
8h15, Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, président des Républicains, au micro de Sonia Mabrouk. À 8h30, l'été sera-t-il studieux pour vos enfants? Les devoirs de vacances, le rattrapage du retard dû au Covid? On en parle avec Philippe Mérieux, spécialiste de l'éducation, et vos témoignages sur le hashtag Europe 1 avant de retrouver à 9h moins le quart Nicolas Canteloup et la revue de presque. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Il n'y aura pas d'abandon d'une réforme des retraites. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin dans la presse régionale. Ce projet, présenté comme la plus grande avancée sociale depuis 1945, avait été figé en pleine crise du coronavirus après 2 ans de concertation, 2 mois de grève et l'article 49.3 de la Constitution.
Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le président veut réengager rapidement une concertation avec les partenaires sociaux dès cet été. Il évoque des sujets financiers. C'est de ça dont on va discuter?
Oui, parce que tout a changé. Le coronavirus est venu balayer les prévisions de croissance et les espoirs de retour au plein emploi. Il faut donc tout revoir. La réforme, aujourd'hui, ne tient plus comme elle était prévue. L'idée est résumée ainsi par un ministre qui est à l'oreille du président. Il faut voir ce que l'on peut garder de cette réforme, mais il faut prendre plus de temps pour la mettre en place. Et le président en dessine les grandes lignes ce matin dans son interview. Le système par points qui, selon lui, profiterait aux plus modestes et notamment à toutes ces professions comme les caissiers, les caissières qui ont été en deuxième ligne pendant la crise, est maintenu. Il semble clairement favorable à ce que l'on travaille plus. Nous ne pouvons pas être un des pays où on travaille le moins tout au long de la vie en Europe, dit-il ce matin dans la presse, mais il se dit prêt à lâcher du lest sur le fameux âge pivot si cher à son premier ministre Édouard Philippe, à partir duquel, cet âge pivot, on part avec une retraite à temps plein. Bref, on sent bien qu'il y a quand même un petit peu de marge de manœuvre, mais pas sûr que ça suffise à dégager un consensus avec les partenaires sociaux, tellement ce sujet est éruptif.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Dans cette même interview, le président de la République ne donne pas de réponse claire sur le maintien d'Édouard Philippe à Matignon, mais il salue son travail remarquable et, dit-il, une relation de confiance qui est d'un certain point de vue unique à l'échelle de la 5e République. Il redit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts et il affirme qu'il faut rompre avec ce qui est la maladie française, selon ses termes, la préférence pour le chômage.
On appelle ça le troisième tour, l'élection par les conseillers municipaux des maires et de leurs adjoints. C'est aujourd'hui, à Paris, Bordeaux, Grenoble ou encore Rennes. Ce sera demain à Lyon. Et surtout à Marseille.
Surtout car le suspense n'a pas baissé en intensité ces dernières heures. Martine Vassal, tête de liste Les Républicains, arrivée en deuxième position dimanche dernier, se retire au profit de Guy Tessier, ce qui apporte à la droite les voix du dissident Bruno Gilles. Mais dans la soirée, Nathalie Chevance, vous êtes à Marseille, un autre élu du même bord s'est manifesté.
Divisé, éclaté, voilà que les Républicains marseillais règlent leur compte. Guy Tessier, 75 ans, issu de la droite dure, accusé de nouer des contacts avec le Rassemblement National. Le RN qui propose désormais un grand rassemblement débarrassé, je cite, de tout esprit sectaire. C'en est trop pour Lionel Royer-Perreaux, maire de secteur républicain, largement réélu, qui lui aussi se pose en candidat.
Il y a des manœuvres qui ne vont pas dans le sens de mes convictions. La candidature de Guy Tessier pose un problème d'éthique, puisque nous savons les uns et les autres la porosité et le lien ténu qu'il peut avoir avec le Front National. J'ai la connaissance de contact. Ça n'est pas possible pour moi de faire ce type d'alliance.
Et voilà pour l'instant deux candidats LR pour le fauteuil de maire et des électeurs pas convaincus du tout.
C'est une catastrophe.
À mon avis, ils ont perdu déjà. Eh ben, tout ça, c'est une guerre de pouvoir. Ils s'en foutent du parti.
Donc ça continue à être la zizanie, les magouilles qu'il y a eu, ça continue. Il faut tourner la page.
Et pour le moment, aucune majorité ne se dégage ni à droite ni à gauche. Le conseil municipal demain promet de nouvelles surprises. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
La politique européenne et la France visée par une procédure d'infraction lancée par Bruxelles.
Oui, cela vous concerne si vous avez subi une annulation de voyage pendant le confinement. On vous a proposé un avoir plutôt qu'un remboursement. Isabelle Horry, ce sont ces packages, hein, tout compris, qui sont visés.
Et oui, la France se fait épingler parce que depuis fin mars, elle autorise les voyagistes à ne pas rembourser tout de suite ces voyages tout compris quand ils sont annulés. À la place, les consommateurs peuvent se voir imposer un bon d'achat. Or ça, dit Bruxelles, c'est contraire au droit européen. La France doit respecter la loi européenne sur les voyages à forfait. Elle prévoit expressément que les touristes ont droit à un remboursement intégral et immédiat. Même si c'est seulement l'avion qui est annulé, le voyagiste doit rembourser aussi l'hôtel. Le gouvernement a suspendu l'application de ce texte jusqu'à septembre. Il explique qu'il s'agit de préserver de la faillite de nombreux professionnels du tourisme. Mais les plaintes affluent dans les associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir se réjouit d'ailleurs de l'ouverture de la procédure d'infraction contre la France. Ceci dit, attention, rien ne va changer dans l'immédiat. À ce stade, c'est un moyen de pression. On va voir comment le gouvernement réagit. À terme, il risque une plainte devant la Cour de justice européenne.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Et vous allez peut-être vouloir vous rattraper après deux mois enfermés chez vous. Un bien étrange printemps. Voilà le début des vacances scolaires ce soir. Souvent, ce sera en France, parfois d'ailleurs à la ferme, loin de la foule des bords de mer.
C'est ce qu'on appelle l'agrotourisme, une forme de retour aux sources avec des séjours au plus près des terroirs. L'année 2020 pourrait doper cette pratique. Reportage de notre correspondant en Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Boujon.
Au départ, Christian et Annie, originaires de Seine-et-Marne, devaient se rendre au Japon. C'était leur grand voyage de 2020. Finalement, à cause du Covid, tout a été annulé. Du coup, cet été, ils vont la jouer plus modeste. Direction Chambles, dans la Loire, et le gîte La Grange aux Hirondelles, à côté d'une ferme, en pleine campagne, à 40 minutes de Saint-Étienne. L'idée, c'est de faire simple et agréable, sans prendre de risques.
On s'est posé la question où aller, un peu loin des foules, et une région qui nous plaisait et qu'on ne connaissait pas. Retrouver une authenticité, des produits de la ferme, un environnement bucolique, puis rencontrer des gens, un peu comment ils travaillent, leur métier.
Christian pourra donc aller voir la traite des vaches deux fois par jour. Christine Jousserand, la propriétaire du gîte, est ravie d'accueillir ses vacanciers après la vague d'annulation du printemps. Elle observe d'ailleurs que cette année, les séjours sont plus longs.
La plupart, aujourd'hui, c'est 15 jours. 15 jours, donc, ils viennent se mettre au vert. Se déconnecter un petit peu de tout ce monde, de revenir un petit peu aux sources comme avant.
Seule restriction, il n'y aura pas de table d'hôte cette année chez Christine afin d'éviter que les occupants des différents gîtes ne se croisent. Les bons produits de la ferme, fromage, saucissons et fruits du verger, c'est dans des paniers repas que les vacanciers les dégusteront. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, des grands patrons qui militent aux côtés de L214 pour le bien-être animal.
Et puis des millions de passeports proposés par le Royaume-Uni aux habitants de Hong Kong, autant dire que la Chine n'a pas apprécié.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard.
On s'habituerait presque à ces vidéos chocs régulières tournées clandestinement dans des abattoirs ou dans des élevages industriels et publiées par l'association L214.
Une indignation du grand public sur la condition animale du grand public, mais pas seulement. Voilà que plusieurs personnalités lancent un référendum d'initiative partagée. Les fondateurs de l'entreprise mythique et de vente privée, notamment, s'associent pour cette bonne cause, Virginie Salmen.
Hugo Clément ou le patron de Free, Xavier Niel, promettent d'y mettre toute leur énergie, leur argent et leur réseau. Ils ont déjà fait rédiger la proposition de loi par des juristes spécialisés. Il y a 6 mesures radicales, notamment l'interdiction d'élever des poules en cage d'ici 2025 et un gros morceau, l'interdiction de l'élevage intensif d'ici 2040. Un grand patron comme Xavier Niel, qui porte les messages de L214, est-il à l'aise avec ça?
Certains ont des méthodes plus extrêmes. Je suis peut-être là aussi aujourd'hui grâce à ces méthodes extrêmes, parce que c'est notamment L214, des gens qui m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Moi, je trouve que c'est de l'activisme qui a ses qualités pour démontrer un certain nombre de problèmes sur lesquels, notamment, le pouvoir politique n'ouvre pas les yeux.
Et pour le reporter Hugo Clément, c'est un élan populaire, mesuré depuis des mois par des sondages, pas une initiative de people.
L'écrasante majorité des Françaises et des Français, qu'ils habitent en ville, qu'ils habitent à la campagne, sont favorables aux mesures qu'on présente aujourd'hui. Et ça fait des années que les gouvernements successifs ne font rien pour les animaux.
Pour que ça se fasse, ils vont maintenant devoir convaincre au moins 185 députés ou sénateurs de porter leur proposition de loi pour qu'un référendum puisse se tenir. Et au moins 4,7 millions de Français devront voter pour.
Un passeport provisoire offert par le Royaume-Uni aux habitants de Hong Kong qui souhaiteraient émigrer. Cette proposition suscite la colère de Pékin.
Les autorités chinoises dénoncent une violation des accords passés avec les Britanniques et menacent maintenant de représailles, Vincent Hervouet.
Oui, c'est une manie des régimes communistes d'empêcher les mécontents de ficher le camp. Le mur de Berlin a été construit pour enfermer les Allemands. S'il n'y avait pas la mer, Cuba se serait vidé. S'il n'y avait pas les champs de mines, les Nord-Coréens deviendraient Sud-Coréens. L'animal humain déteste être enfermé au zoo, même quand le gardien prétend que c'est le paradis. Pékin vient de construire un mur de la peur à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale, les rafles qui ont suivi, tout est fait pour intimider les démocrates. Et depuis mardi, chaque Hongkongais est un suspect. Tous sont enfermés dans l'angoisse. Le bon docteur Boris Johnson a trouvé le contrepoison. Il offre la grande évasion.
3 millions d'habitants qui sont nés avant 1997, donc quand Hong Kong était encore une colonie britannique, peuvent obtenir ce passeport d'outre-mer.
Et donc émigrer, résider au Royaume-Uni et à terme devenir sujet de sa majesté. Pékin défie l'Occident, Bojo relève le défi, il démasque le parti. En comparaison, on observera la prudence, pour ne pas dire la lâcheté de l'Union européenne. On peut aussi relever que l'ancien colonisateur apporte la liberté, c'est pas trop de saison. Mais le vrai paradoxe, c'est que les Britanniques ont voté le Brexit parce qu'ils se sentaient envahis. Ils ont brexité pour restaurer leurs frontières. Boris Johnson invite 3 millions de Hongkongais à domicile. Il ne les subit pas. L'immigration est une arme politique, pas une fatalité.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Europe 1, il est 8h13.
60% de la jauge habituelle, 20 000 spectateurs maximum par jour. Roland Garros, qui doit commencer le 28 septembre, a dévoilé les conditions dans lesquelles il pourra accueillir du public.
Bonjour Jean-François Villotte.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Fédération française de tennis qui organise le tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est partenaire. Vous promettez un protocole sanitaire précis. Masque recommandé pour les spectateurs en tribune, obligatoire dès qu'ils se déplacent dans l'enceinte. Tout cela, ça peut évidemment encore évoluer dans un sens plus ou moins strict en fonction des courbes de l'épidémie.
Bien sûr, il faut de l'humilité quand on prépare un événement de cette importance dans le contexte actuel. Mais nous avons créé les conditions de pouvoir l'organiser. Si le contexte sanitaire évolue comme on le souhaite, c'est le fruit d'abord d'une décision de report dès la mi-mars, dans un calendrier international compliqué, mais pour sauver la saison sur terre battue et ce tournoi, et puis ensuite un travail avec les autorités publiques pour imaginer et mettre en œuvre le protocole le plus rigoureux de protection sanitaire conciliable avec l'organisation du tournoi, avec du public, comme vous venez de l'évoquer.
Si on se place du point de vue des joueurs qui préparent les tournois du Grand Chelem, qu'est-ce qui est le plus rassurant finalement et qui peut leur donner le plus envie de venir? C'est le huis clos de l'US Open fin août ou de jouer en public à Roland-Garros fin septembre?
Non, je crois que les joueurs ont très envie évidemment de jouer avec du public. Ils l'ont pour beaucoup indiqué. Nous sommes évidemment très solidaires de l'US Open. Ils organisent dans des conditions très difficiles, ils se préparent à un huis clos. Nous avons l'espoir, la chance, et nous l'avons un peu préparé, suscité, de pouvoir jouer avec du public. Vous l'avez indiqué, une jauge réduite pour que tous les gestes barrières puissent être respectés, mais une jauge cependant importante. Les premiers jours du tournoi, environ 20 000 spectateurs, et puis le jour de la finale, 10 000. Il faut, pour bien comprendre, dans une journée de finale normale du tournoi de Roland-Garros, c'est environ 20 000 personnes qui sont dans le stade. C'est ce que nous aurons comme public au début du tournoi. Oui. Donc nous aurons beaucoup de fluidité et de circulation.
Merci beaucoup Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération française de tennis, invité des 8 heures d'Europe 1 en direct.
Europe 1 Radio, partenaire de Roland-Garros, je le rappelle. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8 heures sur Europe 1. Il est 8h16, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut dessiner un nouveau chemin. Oui, mais lequel et avec qui? On prendra aussi ce matin le chemin de Marseille où décidément rien, mais rien ne se passe comme ailleurs. Notre invité, le patron des Républicains, Christian Jacob.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.